Nous retrouvons Corinne Lanoir pour évoquer ensemble sur Fréquence protestante le texte 1 Roi 10, 1-15, c'est-à-dire la rencontre entre Salomon et la reine de Saba. Ce texte commence par la reine de Saba qui vient poser des énigmes à Salomon. Alors, est-ce que c'est juste de la curiosité? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien les énigmes comme on le voit dans les livres policiers? Ou est-ce que ça nous donne déjà peut-être une piste sur la nature des relations entre Salomon et la reine de Saba?
Alors effectivement, bon, on a vu que c'était d'abord une rencontre, on pourrait dire protocolaire politique, puisqu'il y a ce souci de négocier des enjeux commerciaux. Et on est aussi, on dépasse très vite ce cadre-là, puisqu'on est dans un monde assez mythique et assez merveilleux, où on a des cadeaux qui sont des cadeaux énormes. Hein. Vers le verset 10, on dit qu'elle lui donne 120 talents d'or, ce qui semble à peu près correspondre à 4 tonnes d'or. Donc
ah oui, c'est quand même énorme. À l'époque, pour mettre sur
c'est
des
quand
bateaux,
même
ça devait être coton.
Une force de conviction assez importante. Et bon, cette femme un peu mystérieuse qui prend cette initiative de venir voir Salomon pour lui poser des questions, ça nous ramène à un contexte qui peut être un contexte nuptial, puisque souvent dans les mariages, il y avait un moment justement où on posait des questions, des énigmes. On a ça par exemple dans l'histoire de Samson, dans le livre des Juges, qui au moment de son mariage va poser des énigmes à ses amis et qui doivent normalement dans le temps du mariage les résoudre. Donc il est possible, c'est-à-dire le texte est très discret et ne dit pas qu'ils ont eu une aventure amoureuse par exemple, mais il y a beaucoup de choses comme ça, les dons très importants, on est
Qui
dans
pourrait
un...
ressembler à la dot, quoi, quelque chose comme une
Voilà.
dot ou
Et puis on est dans un contexte quand même qui est très loin du monde du lecteur, où on est dans un contexte de beauté, de luxe, de volupté, de ces énigmes qui nous ramènent aux mille et une nuits. On est dans un genre de littérature qui laisse flotter l'imagination et les possibilités sans jamais ni les contredire ni les assurer. Donc c'est un peu le lecteur qui va se construire son roman à partir des quelques lignes qui sont là.
Alors il y a aussi un autre indice, c'est que alors indice donc le texte c'est indice 3 1,15 ou on peut aller jusqu'à 1,29 parce qu'après il y a toute une liste qui est un peu longue et juste après on nous dit le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Donc en tout cas, visiblement, ça se faisait, il avait le goût, et bon, ça arrive à ce moment-là, quoi.
Voilà. Alors la différence entre les femmes étrangères et cette femme-là, c'est que ces femmes étrangères vont être accusées de créer des compromissions et des compromis culturels sur leurs initiatives et qui vont donc attirer beaucoup d'ennuis à Salomon, alors que la reine de Saba n'est pas inclue dans cette liste-là. Au contraire, ça se passe bien. Il n'y a pas de. On est dans un texte qui n'est pas centré sur la résolution d'un conflit. On est plutôt dans un texte où on a l'image d'un roi Salomon sage, pacifique et commerçant, et pas du tout en conflit avec d'autres. Et elle joue là le rôle d'une femme intelligente qui est pratiquement en parité avec lui et qui va avoir surtout, contrairement aux femmes étrangères qui vont habiter dans son palais ensuite, le bon goût de repartir chez elle. Donc dans ce sens-là, elle n'est pas dangereuse parce que elle ne vient pas s'installer et amener sa culture dans la maison de Salomon.
Est-ce que c'est une image qui, vous qui avez travaillé justement sur les femmes dans la Bible, cette image-là, d'abord, est-ce que c'est une image plus valorisante que celle qui est habituellement donnée des femmes dans l'Ancien Testament? Est-ce que par rapport à l'idéologie dont on parlait tout à l'heure, hein, idéologie plutôt deutéronomiste, est-ce que c'est une image classique de la femme dans cette idéologie-là ou au contraire quelque chose d'un peu décalé?
Alors, disons que c'est une image assez classique de ce que la théologie deutéronomiste présente par rapport aux femmes, qui est quelque chose qu'on pourrait qualifier de machisme éclairé, c'est-à-dire que les deutéronomistes reconnaissent un certain rôle aux femmes à condition qu'elles ne sortent pas, justement, des catégories et des limites qu'on leur impose. Mmh, et là, on est tout à fait dans ce registre-là, puisque c'est une femme qui prend des initiatives, elle fait quand même... probablement, enfin, si on met des indices de réalité dans ce récit-là, venir du Yémen jusqu'à Jérusalem, ça veut dire faire quand même au moins 2500 kilomètres.
Oui, c'est pas mal quand même.
À dos de chameau, ça représente quand même une certaine entreprise. Et donc, c'est une femme active, qui prend des initiatives, qui pose des questions, qui parle directement face à face avec le roi Salomon.
Et ça débordait pas du cadre de la place qui était laissée à la femme dans l'idéologie deutéronomiste ?
Alors non, puisqu'en fait, elle sert de faire valoir à Salomon.
Ah oui, quand même.
En faisant tout ça, ça ne fait que donner plus de poids à la sagesse et à la richesse de Salomon, puisqu'elle s'incline devant tout ça. Donc...
Là aussi, c'est quelque chose d'assez actuel, c'est-à-dire que, ayons dans le gouvernement des femmes intelligentes qui sont aussi à poigne, qui peuvent par exemple supprimer des centaines de tribunaux en France, du moment qu'elles restent quand même sous la domination du président qui lui est un homme. Quand une femme se présente aux élections, là, on dirait que ça sort de la,
de la norme. On n'accentue pas du tout son rôle de chercheuse, de médiatrice, etc. C'est vraiment. Elle vient. Alors, est-ce qu'elle vient pour se faire épouser ou pas ? Ça, la question restera entière jusqu'à la fin des temps probablement. Mais en tout cas, elle sert en quelque sorte de récompense à Salomon. Hein, on est un peu dans cette théologie deutéronomiste qui est souvent une théologie de la rétribution, c'est-à-dire comme il a fait tout ce qu'il fallait, il a construit le temple, etc. Donc maintenant, il reçoit les gratifications. Qui sont prévues quand on fait ce qu'il faut, quoi.
Là, en l'occurrence, les gratifications, c'est d'être reconnu par quelqu'un qui vient de très loin.
Voilà.
C'est aussi tous les cadeaux qu'elle amène.
Ah, oui. Et donc, forcément, on peut aussi inclure une gratification plus personnelle.
Plus personnelle et plus intime, on
va
dire. D'accord. Alors, ce texte a beaucoup aussi, a beaucoup vécu ensuite. Et donc, on va à nouveau écouter un peu de musique. Et puis après, on parlera justement de cette vie qu'a eu ce texte dans d'autres traditions religieuses.
Relecture de cette figure de la reine de Saba dans d'autres traditions.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tourner. Comme ça, je suis sûr que ça tourne. Et puis, moi, je pourrais couper en fait entre les deux.
Oui.
Comme ça, je suis sûr que je n'enregistre pas l'un sur l'autre. Ça serait très embêtant. Il y avait d'autres choses que tu voulais dire, toi, sur ce passage-là, sur la figure de la femme de...
Non, ça devrait aller, là, il me semble.
Bon, on peut reprendre, dans ce cas-là, sur les autres lectures.
Ouais.
Copte, juif, Coran, et puis après...
Alors d'abord, le Nouveau Testament. Hein.
D'accord,
Un petit coup sur le Nouveau Testament, parce que c'est comme... Attends, faut que je me... Où c'est ? Ça, c'est les Coptes. Il faut le lire, le Nouveau Testament, non ?
Ah ouais, peut-être. Tu veux que je le lise ou...
Bah, comme tu veux, mais je peux le lire.
Bon, d'accord. Donc, nous reprenons avec Corinne Lanoir pour étudier le texte de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba dans le premier livre des rois au chapitre 10, principalement les versets 1 à 15. Comme on le disait juste avant, ce texte a eu une belle postérité. Il a beaucoup inspiré d'autres auteurs et puis voire même d'autres religions. Et une des premières références qu'on peut... Allez voir, c'est dans l'évangile de Luc.
Oui, alors on a une petite allusion, donc c'est dans le chapitre 11 de Luc au verset 29, Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire, donc c'est Jésus, « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. » Eh bien, ici, il y a plus que Salomon.
Voilà, donc la reine du Midi, c'est...
Alors, donc la reine du Midi, c'est une façon de... C'est un nom, d'ailleurs, qui est hérité probablement du judaïsme ancien, qui parle de la reine de Saba souvent, comme la reine du Sud ou la reine du Midi. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette reine de Saba dans les évangiles, elle est une figure tout à fait positive en opposition à la génération qui s'oppose à Jésus. C'est-à-dire que c'est elle, cette femme païenne, donc une femme, une païenne, qui va venir juger la génération des Israélites qui vivent là à ce moment-là.
Donc c'est une figure assez classique où on critique les ceux qui sont déjà dans la religion, qui sont déjà dans Israël, en leur disant, regardez, les païens font quand même mieux que vous.
Voilà. Et en même temps, c'est une façon de l'inclure, en fait, de dire, cette femme-là, elle fait partie de votre passé.
Elle est venue
voir Salomon, donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Et en plus, elle a des choses à vous dire sur lesquelles vous ne pouvez pas non plus rester sans rien dire, quoi.
On peut penser aussi que si Luc... qui écrit notamment son évangile pour les Romains, pour aussi en partie les païens, c'est une manière de leur dire, mais regardez, vous les païens, vous aviez déjà des figures païennes dans l'histoire de la religion dont on veut vous parler.
Et d'ailleurs, c'est le fait de la mettre à côté de Jonas montre bien aussi qu'il y a tout ce débat sur qu'est-ce qu'on inclut dans le peuple d'Israël et qui fait partie de qu'est-ce qui construit l'identité de ce peuple.
Et quand vous disiez qu'elle avait aussi des choses à dire aux Israéliens et qu'ils avaient à l'entendre, c'était mettre les Israéliens en face de certaines questions, de certaines réalités ou...
C'est-à-dire que là, on parle de qui va faire partie du tribunal de la fin des temps. Et l'affirmation de Jésus, c'est que cette femme, impie, est digne de faire partie du tribunal qui va juger ceux qui se proclament comme les purs et les durs du respect de la loi et de la religion telle qu'ils l'entendent, eux.
Donc ça doit être dur à entendre, quand même. C'est une païenne, c'est une femme...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup quand même. C'est important de remontrer combien ces textes-là, à l'époque, étaient des textes violents, étaient des baffes pour leurs auditeurs des gentils textes pour faire plaisir à tout le monde, quoi.
Surtout que c'est une façon de la présenter, enfin de lui redonner une image très positive qui n'était pas ce qu'on trouvait dans le judaïsme ancien. Que probablement une partie en tout cas des lecteurs, si c'est pas ceux de Luc, en tout cas ce sont ceux de Matthieu, parce que Matthieu aussi a cette allusion à la reine de Saba, avaient dans leur culture, dans leur tête, quand ils entendaient parler de la reine de Saba, parce que dans la tradition juive, on a récupéré en quelque sorte cette image de la reine de Saba, mais avec beaucoup plus de méfiance. C'est-à-dire que cette reine de Saba est une sorcière, en fait.
Ah oui.
Et qu'il faut absolument que Salomon puisse la dominer, parce qu'elle elle peut être dangereuse.
Donc alors, ça, on trouve ça dans la tradition juive, c'est-à-dire dans des commentaires qui ont été faits
Dans certains targums, par exemple, dans le targum Sheni, qui est un targum sur Esther, alors ce sont des textes assez récents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écrits... la rédaction de ces textes est postérieure aux évangiles, mais probablement qu'on avait ça déjà dans les traditions orales depuis longtemps. Alors on a, par exemple, on développe l'histoire des énigmes. Entre autres, dans le Targum d'Esther, on dit que la reine a posé plusieurs énigmes donc à Salomon, et en particulier une de ces énigmes, c'est de dire que elle a invité Salomon à trier entre des garçons et des filles qu'elle avait vêtues complètement, de façon complètement identique et qui, disons, à l'œil nu, c'était impossible de reconnaître qui était garçon et qui était fille.
C'est marrant parce que déjà, la rencontre de Salomon et de la reine de Saba, il y a quelque chose qui met en critique la place de la femme dans
Tout
les
à
deux
fait.
physionomistes. Et là,
Absolument.
on a un commentaire qui continue à mettre le bazar dans les genres,
Voilà.
quoi.
Et qui va développer, en fait, la grande peur derrière ces textes, c'est que cette femme, justement, déroge à l'ordre naturel. Et elle va créer du chaos. Parce
D'accord.
qu'elle prend des initiatives qu'elle n'a pas à prendre, elle se présente devant le roi Salomon, etc. Donc c'est vraiment, on traite ce problème-là, hein. Et on va la faire apparaître comme quelqu'un de dangereux, parce que justement, elle remet en cause les catégories sociales et naturelles, entre guillemets, qui sont présupposées par l'idéologie
De la religion à ce
ouais,
moment-là, oui.
voilà.
Oui, d'autant que un des piliers de la religion juive, quand elle se développe surtout comme une autopraxie, une pratique et des rituels qui doivent être vraiment justes, c'est la question de la distinction,
Tout
c'est-à-dire
à fait.
entre le pur et l'impur, mais pas seulement, on ne doit pas mélanger tel aliment avec tel
Voilà.
aliment, on ne
Il
doit
faut bien
pas.
mettre chaque chose dans chaque case et pas faire des mélanges.
La chauve-souris, c'est un animal affreux puisque c'est terrien et
Eh
aérien en
oui.
même temps. Donc là, effectivement, c'est la distinction homme-femme qui est mise en cause et qui pose problème.
Alors bon, bien sûr, dans le Midrash, Salomon va s'en tirer très bien, hein,
Forcément.
forcément, mais avec une solution à laquelle on n'aurait pas forcément pensé a priori, c'est-à-dire quand elle lui demande de trier donc entre les garçons et les filles, lui, il va faire jeter des noix par terre devant eux, et il va leur demander de les ramasser, et en observant leur façon de les ramasser, ces noix, il va, dit le Midrash, distinguer l'impudeur masculine et la pudeur féminine.
Ah là là,
Et
bon
c'est comme
d'accord.
ça qu'il va réussir à
D'accord.
s'en sortir.
Donc là, effectivement, la distinction des genres est sauve. Même le moyen pour distinguer,
Voilà.
on retombe sur la pudeur féminine et
Et
l'impudeur
la pudeur
masculine.
masculine.
Voilà.
Donc on est vraiment dans le schéma très très classique.
Très classique. Alors ça a inspiré donc des Targoums, des commentaires juifs.
Oui.
Et ça a continué à inspirer également ensuite dans l'islam, c'est ça?
Alors effectivement, on retrouve l'histoire de la reine de Saba dans l'islam, où là, d'ailleurs, on retrouve quelque chose un peu du style de ce qu'on a dans les traditions juives. C'est-à-dire que cette tradition coranique va pratiquement reprendre les traditions juives, les traditions chrétiennes et aussi certaines traditions orientales antérieures. Alors là, disons que le point principal dans la vision du Coran, c'est marquer le combat du monothéisme contre toutes les formes du polythéisme. Et elle représentant une de ces formes du polythéisme, parce que on va la trouver au départ en train d'adorer le soleil.
D'accord,
Et
ouais.
elle va venir donc convoquée par Salomon. Alors bon, il y a toute une mise en scène intéressante, parce que on nous dit que. Alors déjà, Salomon, dans la tradition coranique, est un personnage important, hein, dans la tradition musulmane. Il fait partie des quatre grands conducteurs de peuple, avec Nimrod, Nabucodonosor et Alexandre le Grand. Donc quand
D'accord, ah
même,
oui, c'est quand même
on n'est
pas.
pas
Voilà.
là avec. Donc il a une place importante. Et. Il est quelqu'un qui connaît le langage des animaux,
Oui.
qui commande à la tempête et qui sait parler avec les djinns et les oiseaux.
D'accord. Et avec ça, il n'est pas plus animiste que la reine
Ah bah non, bien
de
sûr.
Saba.
Et alors, un jour, donc dans la sourate 27, qui s'appelle la sourate des fourmis, raconte justement que un jour il fait l'inspection de ses troupes d'animaux et de djinns, et qu'il manque un animal, il manque la huppe. Et cette huppe arrive beaucoup plus
Donc
tard.
la huppe, c'est un oiseau, hein,
C'est
c'est
un
ça?
oiseau, voilà. Qui, donc, pour s'excuser et pour justifier son retard, dit: mais moi, je suis allé très loin et j'ai trouvé qu'il existe quelque part une reine qui s'appelle la reine de Saba. Et donc, Salomon lui envoie une lettre à cette reine en lui disant: venez à moi et soumettez-vous, hein, donc le verbe de l'islam. Donc il va essayer de convertir, c'est un appel à la conversion en fait qu'il lance à la reine de Saba. Et la reine arrive. Et là, alors par contre, quand la reine arrive, on retrouve d'une part les traditions de la mise à l'épreuve par les énigmes, par des choses à résoudre. Par exemple, il va faire enlever son trône et le rendre méconnaissable. Et il faudra qu'elle reconnaisse si c'est son trône ou pas. Elle va dire « il semble que ce soit lui ». Donc du coup, elle réussit cette épreuve parce qu'elle ne nie pas, elle n'affirme pas. Mmh. Et il va abuser en fait de sa confiance. En la convoquant dans une salle recouverte de verre. Et donc elle va croire que c'est de l'eau. Mmh. Elle va relever ses jupes. Et en relevant ses jupes...
Je crois qu'il y a un détail intéressant. Ouais.
Voilà, on va s'apercevoir qu'elle a du poil aux jambes.
Du poil aux jambes.
Et donc là, on retrouve en fait l'idée qu'il y avait dans les textes juifs où elle est du côté du chaos. Parce que
les poils aux jambes, déjà à l'époque, c'était forcément...
C'est quelque chose... Oui, tout à fait.
Donc là, elle transgresse ce temps-là.
Et donc là, dans la tradition coranique, on n'a pas le problème de savoir s'ils ont des relations ou pas, parce qu'il va l'épouser. Mais avant de l'épouser, il va quand même la faire épiler.
D'accord.
Voilà.
Voilà pour toute.
Donc l'ordre des choses est rétabli.
Comme quoi on voit que les obligations et les choses auxquelles il faut se plier pour être une femme, c'est comme ça, et un homme, c'est comme ça.
Voilà.
Et étonnamment, il y a des choses qui perdurent en tout cas.
Tout à fait.
Sans doute, il y a d'autres choses où ça a complètement bougé au fil des temps, mais là, c'est assez étonnant.
Cette image de la femme à la fois un peu sorcière et séductrice, donc qui est aussi un des grands fantasmes qu'on retrouve dans énormément de projections masculines sur le féminin.
Ce qu'il n'y a pas forcément dans le texte de l'Ancien Testament, au départ, elle n'est pas forcément vue comme une sorcière.
Non, pas du tout. Par contre, alors, on connaît ça aussi dans certaines traditions juives aussi, où on montre... alors, c'est des traditions apocryphes, où Salomon lui-même est montré comme une sorte de magicien, qui sait aussi, d'ailleurs, commander aux animaux, etc., etc. Donc, dans les Odes de Salomon, par exemple, ou des textes de ce genre, on va retrouver ça. Et dans la tradition juive aussi, on connaît cette idée de la reine de Saba, alors qu'il soit à des sabots à la place des pieds, à toujours du poil aux jambes, puisque dans un des textes, Salomon lui dit « Ta beauté est celle d'une femme, mais tes poils sont plutôt ceux d'un homme », ce qui est quand même une façon de lui faire la cour assez... Mais donc, voilà, tout ça parce que c'est une femme qui dérange l'ordre naturel de l'univers et qui représente un danger, parce qu'elle inverse le rôle des genres, parce qu'elle gouverne un peuple, et que ça ne se fait pas.
On se retrouve tout à l'heure pour parler un peu de... pour terminer sur la reine de Saba et Salomon, pour parler un peu de quelle figure de l'autre un petit peu se dessine avec tout ça.
Je me souviens, sur les palopates,
c'est génial. C'est quand même...
C'est vrai qu'on retrouve autant l'histoire de la sorcière, c'est quand même... C'est pas la sorcière, de la femme sorcière, c'est bien que tu l'aies souligné, parce que... J'aimerais bien de pas... éviter de prendre de l'eau. Je termine là d'enregistrer. Est-ce que c'est vous qui preniez de l'eau à l'instant?
C'est François qui prenait de l'eau.
D'accord, parce qu'on en sent... Ça sent vachement...
Non,
mais bon, s'il est avec le savon, tu le laisses de se rincer, hein.
Ça va aller.
Ouais, ça compte toujours en retard, les rayons.
Je dis juste un petit truc sur les coptes.
Ah oui, les coptes, on les a oubliés.
C'est intéressant aussi.
Ouais. D'accord. On repart, c'est bon? T'es pas trop fatigué?
Non, ça devrait aller.
Retour avec la reine de Saba et le roi Salomon. Donc ce n'est pas Corinne Lanoir qui joue la reine de Saba et pas moi qui joue Salomon, mais ce sont les protagonistes du texte de 1 roi 10, 1 15 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on est allé voir du côté des commentaires juifs, du côté du Coran, comment la figure de la reine de Saba avait été réinterprétée, revue, etc. Et il y a des textes aussi du côté des coptes, qui sont des chrétiens coptes, donc plutôt en Égypte, hein, c'est ça?
Voilà. Alors là, on va avoir des textes, alors qui sont des textes plus tardifs encore, puisque en fait, on en parle surtout dans une sorte d'épopée nationale qui a été écrite, qui s'appelle le Kebra Nagast, mais qui date du XIVe siècle, donc qui est un texte plus tardif, mais qui va reprendre et célébrer des origines, hein, donc, et montrer comment, en fait, les origines de la dynastie qu'on veut promouvoir ou installer ou défendre viennent de l'union justement de Salomon et de la reine de Saba. Parce que là, là
eux, les choses sont claires.
La reine de Saba, quand elle repart chez elle, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte.
Donc, d'accord.
et donc, elle va donner naissance à un fils qui va être celui qui va être considéré comme le fondateur, en fait, du royaume éthiopien. Tout ça pour prouver que l'Éthiopie est l'héritière légitime d'Israël comme peuple élu, puisque ce fils est issu de Salomon.
D'accord. Donc là, on fait aussi le lien avec, effectivement, avec l'histoire des Juifs d'Éthiopie, les Falachas,
voilà.
Avec effectivement le fait qu'il y a des églises chrétiennes assez importantes en Éthiopie, cette idée que oui, ça aurait été le premier régime.
Voilà, et que
chrétien.
Les rois d'Éthiopie sont les descendants directs en fait de ce Ibn al-Hakim, ou Malik, on l'appelle aussi parfois, qui est donc ce fils du sage, hein, né de l'union de Salomon et de la reine de Saba.
D'accord. Donc vraiment, ce texte a beaucoup. A beaucoup inspiré. J'essaie de réfléchir, mais je vois pas forcément dans les représentations plus récentes où c'est un imaginaire qui a pas forcément. En même temps, le terme sabbat est beaucoup utilisé, ça m'a servi de marque à des produits IFI. Mais je vois pas forcément de réutilisation récente de la reine de Saba.
Non, alors on trouve quelques tapisseries, on retrouve ce qu'on disait au début, c'est-à-dire où il y a une tapisserie à. Je ne sais plus à quel endroit, où la reine de Saba est mise en parallèle à la chaise Dieu avec la visite des rois mages.
Ah voilà.
Donc on voit bien que on trouve là l'idée de les extrémités de la terre qui viennent rendre hommage et se soumettre à une certaine forme de culture et d'universalisme.
On pourrait suggérer ça à ceux qui voient uniquement comme des envahisseurs, les gens qui viennent de l'extrémité de la Terre vers l'Europe, leur dire mais non, c'est une manière de rendre hommage à votre toute-puissance et votre grande bienveillance, messieurs nos nouveaux rois. Alors, la reine de Saba, c'est une très belle figure du rapport à l'autre, parce qu'elle représente plusieurs altérités, et du coup je crois que c'est ce qui vous a intéressé principalement dans cette figure de la reine de Saba.
Oui, alors déjà de voir comment elle est déclinée en fait sous tous ces aspects différents, hein, à la fois femme active et preneuse d'initiative, alors même si elle vient comme récompense ou pour se faire épouser, il y a tout un côté aussi de la femme voyageuse qui est en recherche, qui va être aussi médiatrice, parce que le Yémen, c'est quand même aussi ce qui fait le lien entre l'Afrique et l'Asie, et donc il y a cette partie, c'est une sorte de médiatrice culturelle avant l'heure, d'une certaine façon. Il y a cet aspect de la femme sorcière séductrice, et puis cette espèce d'Ève vénérée, de mère fondatrice du côté de la tradition copte. Et donc tout ça donne un éventail très très large, hein, à partir d'une même figure, et où on voit un peu une série de réflexions sur le rapport à l'autre qui vient d'ailleurs, de loin, et comment c'est à la fois quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui fait rêver, et comment il n'est pas facile de construire, ou comment plutôt, on construit toujours la figure de l'autre par rapport à son propre imaginaire.
Oui, oui. Et la reine de Saba, elle a quelque chose de très, même dans sa façon de très exotique, justement l'exotique s'est construit par l'imaginaire là de Deutéronomie, c'est cette époque-là, c'est
voilà,
exotique
donc,
pour eux, quoi.
On ne sait pas grand-chose, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations sur qui était la reine de Saba, ces textes bibliques, mais ça nous donne beaucoup d'informations sur ceux qui les écrivent et sur l'image qu'ils ont de l'autre dans l'époque où ils vivent.
Et c'est vrai qu'on retrouve aussi des questionnements sur l'image des femmes étrangères ici, où en gros, c'est peut-être un peu hors sujet, mais le débat sur le foulard, où les jeunes filles qui avaient le foulard soit étaient des femmes dominées, soit étaient d'affreuses manipulatrices, idéologisées et un peu sorcières finalement. Donc,
ouais.
une facilité à remettre les gens dans... Les femmes sont plus faciles si on les met dans des cases que si c'est des personnes qui ont d'abord une réflexion, qui sont d'abord des individus, avec une réflexion personnelle.
Et qui peuvent avoir des identités construites à partir de multiples aspects, comme cette reine de Saba, en fait, contient tout ça à la fois. Elle est à la fois... Une femme pratique et active, commerçante et diplomate. Elle est à la fois une femme qui peut être séductrice, une mère fondatrice et bien d'autres choses encore.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces figures de femmes? Est-ce que c'est chercher justement comment des femmes arrivent petit à petit, malgré un texte qui a sans doute été écrit par des hommes, filtré pendant des siècles? Il y a quand même des figures de femmes qui remettent en cause les choses, qui arrivent à perdurer dans le texte, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Et qui échappent toujours au contrôle. Et, bon, elle est toujours là, elle continue à faire sa route sur les dunes du Yémen et de l'Éthiopie, même si Salomon voulait l'utiliser seulement en faire valoir de son royaume. Et donc, il y a cette idée que... Elle s'échappe toujours et elle est toujours à nouveau disponible pour un nouvel imaginaire, en fait. Donc ça, c'est... Et puis, l'autre aspect intéressant de son histoire littéraire, c'est que toutes ces interprétations se bâtissent l'une grâce à l'autre. Et que entre le texte de l'Ancien Testament, le texte du Nouveau Testament, la tradition juive, la tradition copte ou la tradition musulmane, tout est imbriqué.
Oui.
Et on n'est pas là, justement, dans des catégories où chacun a une interprétation qui n'a rien à voir avec l'autre. Au contraire, on se nourrit de l'interprétation de l'autre religion pour construire la sienne. Et ça me semble être un processus extrêmement intéressant et fructueux pour parler du dialogue entre toutes les religions.
Et c'est quelque chose qui peut continuer aujourd'hui, c'est-à-dire que le thème, personnage qui pourrait très bien être repris, réinterprété et dire aujourd'hui comment on voit la reine de Saba et qu'est-ce que ça nous dit sur toutes ces questions-là.
Voilà, ça construit un imaginaire méditerranéen et qui est aussi large et étendu que les pays autour de la Méditerranée.
Corinne Lanoir, merci beaucoup, merci de ce voyage... Des paysans entre le Yémen, Israël, en passant par les textes juifs, le Coran, les Coptes. Donc je rappelle que vous êtes maître assistante à la faculté de théologie de Lausanne, directrice du centre œcuménique Agapé. Il y a un site internet du centre œcuménique.
Agapé Centro Ecumenico, tout attaché, .org.
Voilà. Et puis deux ouvrages que je vous conseille, Femmes fatales, filles rebelles, les figures féminines dans les juges, aux éditions Labor et Fides. Et puis Une femme étrangère des frontières ouvertes, aux éditions Olivetan, qui permet de travailler en groupe sur le livre de Ruth. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes sur Fréquence Protestante. À la semaine prochaine pour cette chronique biblique.